BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante, numéro 283. Soyez les bienvenus au sommaire de notre dimanche. Un grand patron kidnappé, séquestré, mutilé. On se croirait dans les années 70, au temps du baron Empain. Et c'était pourtant il y a quelques jours. C'est ce qui est arrivé à David Balland et à son épouse. Entre ces deux époques, les mêmes procédés à une exception près. Aujourd'hui, les criminels utilisent des cyber-outils. Nous recevrons dans un instant le général en charge de l'unité cyber. C'est lui qui a supervisé les opérations dans l'affaire Balland. Il nous en donnera tous les détails. Au sommaire également, Dominique Pellicot. Est-il un criminel en série? Il a été entendu cette semaine par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Les juges s'intéressent à deux affaires jamais résolues, un viol et un meurtre dans lesquels il pourrait être impliqué. La face cachée de Dominique Pellicot pourrait-elle être encore plus sombre qu'on ne l'imagine? Nous poserons la question au psychiatre Paul Benfussan. C'est lui qui l'a expertisé durant le procès Mazan. Enfin, des questions autour du boucher de la Sarthe. Peut-il être innocenté 30 ans après? La cour de révision a accepté de se repencher sur le dossier d'Annie Leprince, cet homme de 67 ans qui a été condamné pour le meurtre de 4 membres de sa famille. Il clame son innocence, il parle d'un complot. On vous donnera les toutes dernières informations, bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, ça commence tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Dominique Rizet qui est bien là. Bonjour Dominique.
Bonjour Philippe.
Mais avec une toute petite voix, ouais. Dominique, aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un jour sans voix. C'est mais ça. Je vais essayer quand même. Merci d'avoir fait le sommaire à ma place.
Sans voix, mais pas sans talent. Dominique est là.
Oh, comme c'est beau.
Janvier 1978, janvier 2024. Deux époques, mais des crimes qui se ressemblent. Il y a quelques jours, le grand patron d'une société de crypto-monnaie, David Balland, était enlevé, mutilé, séquestré en échange d'une rançon. Une affaire qui rappelle l'enlèvement il y a 46 ans du baron Empain, un PDG d'industrie kidnappé, molesté, lui aussi mutilé, en attente d'une rançon. Les affaires se ressemblent, mais le crime organisé s'est modernisé. Comment traque-t-on aujourd'hui ces nouveaux malfaiteurs? Comment nos gendarmes sont-ils parvenus à sauver David Balland et son épouse, invitée exceptionnelle d'affaires suivantes, le général Hervé Pétri, commandant de l'unité cyber. Il répondra à nos questions dans un instant, mais d'abord, retour sur cet enlèvement rocambolesque avec Elisa Tran.
Leur calvaire a démarré un mardi matin au lever du soleil. Le 21 janvier, David Balland et sa compagne Amandine sont enlevés à leur domicile de Méreau. Lui est le cofondateur de Ledger, une société florissante dans le secteur de la crypto-monnaie. C'est à l'un de ses associés que les ravisseurs vont s'adresser à travers deux vidéos. La première montre le couple ligoté, la seconde, un doigt sectionné de David Balland. Le commando armé exige une rançon de 10 millions d'euros en monnaie électronique. Les gendarmes de Bourges sont aussitôt prévenus. Les premiers éléments de l'enquête les mènent devant cette maison de Vierzon.
Moi, j'ai entendu un grand boum. Et je suis sorti et c'est là que j'ai vu des messieurs avec des mitraillettes, des machins, l'hélicoptère de la gendarmerie qui était vachement bas.
Mais David Balland est en réalité retenu ligoté dans cette propriété isolée près de Châteauroux. Quand le GIGN donne l'assaut, cela fait près de 36 heures qu'il est pris en otage.
Une intervention que nous faisons avec un maximum d'effets de surprise qui nous permet d'arrêter en souplesse les ravisseurs. Nous arrivons à libérer M. Balland sain et sauf et arrêter ses ravisseurs.
Pas de trace en revanche de la femme de David Balland. La course contre la montre se poursuit. Le lendemain, les gendarmes vont mener un nouvel assaut sur ce parking d'Étampes. À l'arrière d'une camionnette, Amandine Balland est séquestrée par 6 hommes. Elle est libérée sans aucun coup de feu échangé. Au total, 10 personnes déjà connues des services de police ont été interpellées. L'enquête se poursuit afin de retrouver le ou les commanditaires.
Affaire incroyable, une enquête qui se poursuit. On va décrypter tout ça avec notre invité du jour, invité exceptionnel, général Hervé Pétri. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commandant de l'unité nationale cyber, général depuis hier. Deux étoiles, on les voit. Félicitations à vous.
Merci.
Dominique n'aura pas ces deux étoiles, moi non plus, vous les avez.
Et
on est ravis de vous accueillir. Je faisais le parallèle avec l'affaire du baron Empain pour commencer, parce que dans ces deux affaires, alors le baron Empain, c'était il y a 46 ans, mais on a un grand patron d'industrie kidnappé, séquestré, mutilé les doigts de la même manière que David Balland. Est-ce que vous-même, quand vous êtes arrivé sur cette affaire Balland, vous avez pensé au baron Empain? Vous avez fait des parallèles?
Absolument, et d'autant plus que vous venez de le rappeler, on vient de fêter les 46 ans de l'enlèvement du baron Empain.
C'était à la même, 23,
c'était le même jour. Près, exactement. À 23 janvier, jour
c'est
pour
ça,
jour.
C'était le jour pour jour. Et donc, forcément, on fait le parallèle. Là où les choses divergent un petit peu, c'est que dans les années 70, on séquestrait des industriels ou des vedettes, et que là, maintenant, on séquestre des personnalités, soit enfin du monde du numérique ou des influenceurs, ce genre de choses. Donc, changement d'époque. Mais en fin de compte, c'est toujours à peu près la même chose, finalement. Hein, on a affaire à des gens particulièrement féroces et prêts à tout pour obtenir de l'argent, finalement.
Et la façon d'enquêter n'est plus la même.
Alors, effectivement, là aussi, vous avez raison. Les moyens d'enquête ont considérablement évolué, puisque nous sommes maintenant dans une époque où le numérique a envahi tout notre univers, et ceux qui ont le plus réussi leur transformation numérique, c'est les criminels, d'une certaine manière. Et la preuve en est avec, justement, cette affaire et cette rançon demandée en cryptoactifs.
Comment avez-vous travaillé sur cette affaire? Comment, parce qu'il y a eu différents services qui ont été associés. Alors, on a eu le récit du GIGN, de cet assaut donné. Il y a tout le travail que vous avez fourni pour remonter à ces individus. Comment avez-vous travaillé?
Alors très simplement, c'est toujours un peu la même chose finalement avec la gendarmerie, parce que la gendarmerie a cette force, cette capacité à monter très rapidement en puissance et à mobiliser un grand volume de force. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc tout commence par, je dirais, la brigade de gendarmerie locale, qui ensuite rend compte à ses échelons hiérarchiques, et c'est le groupement, l'échelon départemental, qui va commencer à lancer les recherches physiques, je dirais, et récupérer l'ensemble de preuves pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur
très
un enlèvement.
Très vite, vous avez le sentiment que c'est pas juste un enlèvement classique?
Bien évidemment, tout de suite on comprend que c'est pas un enlèvement classique, et on fait appel à des renforts. D'abord la section de recherche de Bourges, qui est en charge des investigations criminelles au sens large, et comme on voit qu'il y a effectivement des problématiques numériques, on fait appel à l'unité nationale cyber que je commande pour mener à bien les investigations numériques et au GIGN pour la phase négociation et intervention.
Et chez vous, dans votre département, parce que il est important, GI on connaît, SR on connaît, on sait comment ils ont travaillé. Juste vous, comment ça se passe au département cyber?
Alors, l'unité nationale cyber, donc c'est l'unité phare de la gendarmerie en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Donc nous disposons de toute la panoplie d'outils et de moyens d'investigation pour œuvrer dans ce domaine. Comment ça se passe? Ben, très simplement, nous sommes co-saisis, donc nous sommes un appui de la section de recherche de Bourges, et on va tout de suite projeter et organiser et s'organiser en trois composantes. D'abord, on projette des effectifs sur le terrain au plus près de l'enquête pour appuyer les enquêteurs sur place pour traiter l'ensemble des preuves numériques. Qu'est-ce que ça veut dire traiter les preuves numériques? Ça veut dire tout simplement saisir, copier et exploiter les données qui sont dans les téléphones portables, les objets connectés, les ordinateurs, les serveurs. Donc, un appui terrain qui se révélera tout à fait important, bien
évidemment. De la victime.
De la victime dans un premier temps, et puis ensuite, des personnes interpellées au fur et à mesure qu'on va commencer à avancer dans cette enquête et à interpeller des auteurs.
C'est tout ce travail cyber qui permet de les localiser et d'aller les chercher et de les arrêter.
Alors, il y a bien évidemment ce travail, et puis il y a un peu de réussite également. Hein, toute affaire a besoin d'un peu de réussite. Au début, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Hein, ouais. Donc, c'est là où je rappelais le travail de nos gendarmes de terrain aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier, hein, parce qu'on essaye de rassembler toutes les preuves et de comprendre les faits. Et puis, on va investiguer dans l'appartement de la victime, ou plutôt dans sa maison, sur ses serveurs. On va essayer de trouver un certain nombre d'éléments. Et puis, à un moment donné, on va avoir un renseignement qui va nous provenir de la police nationale, qui elle-même avait été alertée par la police municipale de Bourges, qui avait détecté un individu au comportement suspect dans un véhicule en face de la gare. Il appelle la police vient l'interpeller. Et là, la police, une policière notamment, se rend compte que cet individu a des éléments en lien avec l'enlèvement de M. Ballan, qui, dans la région de Bourges, est très connu, parce que Ledger, c'est très connu dans la région. Et cette policière va appeler la gendarmerie, la SR de Bourges. Et donc là, il va y avoir un grand bond en avant, puisque, bien évidemment, les téléphones vont parler, on va travailler aussi sur le véhicule, on va exploiter toutes les données qui sont mises à notre disposition, et on va tout de suite avoir un certain nombre d'éléments nous permettant d'orienter les recherches.
On dit souvent ici avec Dominique, et on le redit, l'ADN est la reine des preuves, c'est ce qui permet de régler bon nombre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, ce sont plutôt les données numériques qui deviennent la preuve ultime, ou en tout cas l'outil ultime?
ADN ou données, en fait, c'est la trace. Et la trace, voilà, elle peut être génétique comme elle peut être numérique. Donc, c'est tout le travail sur les traces et les données, quelles soient. La gendarmerie, depuis maintenant, oui, 6-7 ans, s'est mis en ordre de bataille pour être à la pointe dans ce domaine. La gendarmerie, c'est la première qui a fait une saisie en crypto-actifs en 2014, hein, première fois en France. On a un vieux savoir-faire. Et on a agrégé nos forces il y a maintenant, en 2019, de mémoire, pour se doter d'une vraie capacité d'intervention en matière cyber.
Et vous travaillez derrière des ordinateurs essentiellement ?
Alors essentiellement, bien évidemment, hein, puisque oui, c'est le cœur du métier, mais avec beaucoup de projections terrain pour tout ce qui est perquisition, comme dans cette affaire, hein, finalement. On se projette, et donc moi j'ai des équipes dédiées d'intervention pour traiter la preuve numérique. Et puis bien évidemment, à l'état-major à Pontoise, on traite d'autres types de données, que ce soit sur les crypto-actifs ou pour lutter contre les trafics sur le dark, par exemple. Enfin, voilà. Donc
toute la face cachée.
Toute la face cachée. Voilà, on a toute une panoplie d'acteurs et d'enquêteurs sur tout le spectre.
Sur cette affaire, l'enquête n'est pas terminée, donc on va dire ce qu'on peut dire. Mais il y a eu ces personnes interpellées. Est-ce que, alors, le baron Montpain, on en parlait, on était sur des grands malfrats un peu classiques. Aujourd'hui, ceux qui ont été interpellés, quel profil ont-ils ? Quel est le profil de ces criminels qui demandent de la crypto-monnaie, donc une forme de monnaie virtuelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais qui rapporte gros et qui représente de l'argent ? Quel est le profil de ces individus qui commettent ce type d'actes ?
Vous avez raison, c'est une bonne question, parce que voilà, ça en dit long de l'air du temps. En fait, les individus que nous avons interpellés, qui ont séquestré, ce sont des petites mains, des journaliers, des jobbers, comme on dit aujourd'hui, en mauvais français. C'est-à-dire qu'ils sont payés à la tâche, ils savent grosso modo à peu près ce qu'on leur demandait, mais pas plus finalement, et ils arrivent pour accomplir une tâche précise. Donc pour certains, ça va être l'enlèvement, pour l'autre, la séquestration, pour un autre, couper un doigt, pour un autre, vous voyez, apporter des vivres. Donc c'est très organisé. Ils sont recrutés comment ? Là aussi, air du temps, sur les plateformes de messagerie. Et ils répondent à une annonce. Ou parfois, vous avez un individu chargé du recrutement qui dispose d'un vivier dans lequel il peut puiser, taper, pour aller justement
c'est
monter.
C'est l'agence d'intérim du petit criminel exécutant.
Exactement. Donc c'est comme ça que cela marche. Donc on le retrouve dans cette affaire de séquestration, comme on peut le retrouver également dans les affaires autour de la drogue, de règlement de compte, ce genre de choses.
Il y a une question évidemment, c'est... qui se cache derrière, ouais. Qui les embauche. C'est ce que vous cherchez aujourd'hui, évidemment. Alors, vous n'allez pas nous dire où vous en êtes, parce que j'imagine que c'est le secret de l'enquête, mais quel profil peut être derrière ?
Alors d'abord, vous avez raison. Nous, la priorité d'abord dans cette affaire, vous l'avez tous compris, c'était la sauvegarde de la vie humaine, retrouver vivant et le plus vite possible les personnes qui ont été enlevées, séquestrées, M. Ballan et son épouse, à qui je rends hommage pour leur courage, parce qu'il en faut, hein, vu les circonstances dans lesquelles ils ont été enlevés et les traitements qu'ils ont subis. Donc ça, c'était notre priorité absolue, et nous y sommes parvenus rapidement, et tant mieux. Voilà. Maintenant, on rentre dans une seconde phase d'enquête, effectivement, c'est remonter sur les donneurs d'ordre, les organisateurs. Et donc là, c'est tout un long travail qui va prendre peut-être un peu de temps, mais nous finirons par identifier ces gens, parce que, bien évidemment, il y a des pistes, et qu'ils soient en France ou à l'étranger, voilà, ce n'est qu'une question de temps.
Mais c'est des très puissants. C'est quel type de profil ? Pas forcément dans cette affaire, hein, globalement, sûr. Le type de personne qui peut commanditer ça.
Ben, vous avez tout type de profil. Ça peut être aussi des gens qui gravitent dans les milieux des stupéfiants, qui ont une certaine habitude des trafics, de la violence... Voilà, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour vous faire un morphotype, mais voilà, ça pourrait être un peu ça aussi.
Ça va se reproduire.
Ça s'est déjà produit, ça s'est produit.
Le 3 janvier, on en a eu un déjà.
Exactement. Voilà, il faut savoir qu'en 2024, j'ai regardé, on a eu à peu près une centaine d'affaires comme cela. Ah, mais ouais. On était beaucoup dans les milieux de stupéfiants, de règlement de compte, encore une fois, de séquestration, enlèvement, entre dealers, entre trafiquants. Là, ces affaires telles que celles-ci, qui ont une autre ampleur. Oui, ça commence un petit peu à s'accumuler. Maintenant, ça reste un épiphénomène. Donc, il ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge et faire peur à tout le monde. Mais oui, les cas s'enchaînent parce que ces personnes vivent dans un univers où ils sont fascinés, bien évidemment, par l'argent facile, le fantasme aussi des crypto-actifs, et ça leur pousse à agir.
Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau.
Merci. Avec grand plaisir.
Félicitations à titre personnel.
Merci.
Et évidemment pour toutes les équipes qui ont travaillé sur cette affaire. Vous restez avec nous dans un instant. Dominique Pellicot est-il un criminel en série? Il a été entendu cette semaine par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Les juges voulaient l'entendre sur deux affaires jamais élucidées, un viol et un meurtre. La face cachée de Dominique Pellicot est-elle encore plus sombre qu'on ne l'imaginait? Les éléments de réponse dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes. Dominique Pellicot n'en a pas fini avec la justice. Il a été entendu cette semaine par l'une des juges du pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Juge qui s'intéresse au rôle que Dominique Pellicot a pu jouer dans deux affaires jamais résolues. Un viol et un meurtre. Deux affaires dans lesquelles il a tendu un piège machiavélique à ses victimes. Victimes qui pourraient être encore plus nombreuses. Les enquêteurs ont déjà recensé 5 affaires dans lesquelles Dominique Pellicot pourrait être impliqué. La face cachée de Dominique Pellicot, c'est dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, retour sur ces deux affaires sur lesquelles il a été entendu cette semaine avec Elisa Trana.
Ce sont des traces d'empreintes génétiques relevées sur une scène de tentative de viol il y a 25 ans qui ont permis à la justice de remonter jusqu'à Dominique Pellicot. L'ADN prélevé à l'époque n'a pu être identifié qu'en 2020, après son arrestation dans l'affaire des viols de Mazan. En 1999, une jeune négociatrice en immobilier tombe dans un guet-apens. En pleine visite d'un bien à Villeparisis, son client la menace avec un cutter, cherche à l'endormir avec une compresse imbibée d'éther et tente de l'agresser sexuellement. Elle se débat et parvient à s'enfuir. Mise en examen, Dominique Pellicot a été entendu cette semaine sur cette tentative de viol.
Il explique qu'il a eu une pulsion vis-à-vis de cette jeune femme, qu'il y a eu une agression physique de cette jeune femme et qu'à un moment donné, quand elle se débat, qu'il y a eu cette tentative d'endormissement et que quand elle se débat, il réalise ce qu'il est en train de faire et il s'en va.
Durant ces 4 heures d'audition, Dominique Pellicot a également été interrogé sur le meurtre de Sophie Narme en 1991. Agent immobilier à Paris, elle avait elle aussi rendez-vous avec un client dans un appartement de la rue Manin. Son corps a été retrouvé sur place. Les prélèvements ADN ont été égarés, mais le mode opératoire est proche de celui de Villeparisis.
Il se trouve que dans les deux cas, la victime a été bâillonnée, a été frappée, a été violentée, a été dénudée, a été ligotée et étourdie avec de l'éther.
Mise en examen également dans cette affaire, Dominique Pellicot nie toute implication.
Évidemment, ces affaires suscitent beaucoup de questions autour du profil de Dominique Pellicot. On va reprendre tout cela avec nos invités. Jean-Alphonse Richard, bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Et Paul Bensusson, bonjour.
Bonjour.
On est ravi de vous accueillir pour la deuxième semaine consécutive. Vous êtes l'expert du moment, psychiatre, expert judiciaire, évidemment. Et vous avez expertisé Dominique Pellicot dans le cadre du procès Mazan. Ce sera évidemment intéressant d'avoir votre regard sur le profil de Dominique Pellicot. D'abord, Jean-Alphonse, ces deux affaires qui sont donc aujourd'hui au cœur des investigations pour lesquelles donc Dominique Pellicot a été entendu par les juges. Prenons la première, cette jeune femme, agent immobilière, cette jeune Marion. Comment ça se déroule? On a le sentiment qu'il y a quelque chose de très à la fois pulsionnel et en même temps de très organisé.
Ah ben pour Marion, effectivement, donc là, on est en le 14 mai 99. Dominique Pellicot, puisque c'est lui, il a reconnu les faits, donc voilà. Il se présente à une agence immobilière, il va dire qu'il est intéressé par un bien, il regarde la vitrine, et effectivement, il a repéré d'ores et déjà Marion. Ça, on le sait aujourd'hui, il l'a regardée, etc. Il a pu la repérer. Là-dessus, il est pressé. Il faut absolument qu'il visite le bien très vite. C'est un petit duplex, etc. Il faut qu'il le visite. S'il y a une urgence, il est très intéressé par ce bien. Donc Marion dit, bah, très bien, elle a 19 ans, Marion, elle dit une affaire formidable, ça va être rapidement fait. Il dit, je m'absente une seconde. Il va à sa voiture, il prend de la ficelle avec laquelle il emballe des meubles, dit-il. Il prend également un produit qui contient de l'éther. Il met tout ça dans sa poche, ils vont visiter le bien. Là, il demande à la jeune femme de mesurer le sol. Elle se retourne avec son maître pour résumer le sol, pour mesurer le sol. Et là, il lui place un cutter sous la gorge. Alors, il dira, j'ai jamais eu de cutter de ma vie. Je n'utilise pas, c'était des clés. Je me posais mes clés sur sa gorge. Mais elle est formelle, Marion, elle dit voilà. Donc, il va y avoir une tentative de viol à ce moment-là. Il va la bousculer. Il va l'attacher dans le dos. Il a prévu de la ficelle. Là, c'est très intéressant parce que dans la méthodologie, la juge Nathalie Turquet lui dit mais pourquoi vous avez pris de la ficelle et puis pourquoi vous avez pris du produit? Alors produit, c'est pour l'étourdir un petit peu. La ficelle, c'est encore plus intéressant parce qu'il dit ça permettait d'éviter les coups de tête. Éviter les coups de tête. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il dit ça, j'analyse, et la juge fait cette analyse, que c'est quelqu'un qui a l'habitude déjà du viol, qui a l'habitude d'une victime qui, d'un seul coup, n'accepte pas ce qui se passe et va essayer de lui donner des coups. Fort heureusement pour Marion, elle va réussir à s'en sortir, et grâce à un stratagème extraordinaire, c'est qu'elle va faire semblant d'être endormie. Elle va essayer de ne pas respirer ce produit très nocif, très toxique, et elle va ensuite réussir à s'enfuir et aller s'enfermer dans un dressing. Voilà pour la méthodologie. Qu'est-ce qu'il en sort pour la juge? C'est que c'est quelqu'un qui a manifestement une méthodologie qui existe, précise, et qui a une habitude.
Et ça montre quelqu'un qui est particulièrement organisé, qui a prémédité, qui a préparé, qui a repéré, qui est allé à l'agence, qui entre-temps est allé chercher du matériel dans sa voiture, qui sait, vous l'avez expliqué Jean-Alphonse, que il peut lui aussi risquer d'être blessé, d'être frappé par sa victime. Donc, est-ce que Dominique Pénicaud est un homme organisé?
Alors, cette affaire étant en instruction, je ne parlerai
pas en parler,
bien sûr
que c'est du un procès d'Avignon.
Oui, c'est un homme méthodique, organisé, avec une stéréotypie du mode opératoire. Au moment du procès de Mazan, on a bien vu que les invités suivaient tous un protocole parfaitement mis au point et identique d'un jour à l'autre et même au fil des années. Donc oui, c'est un homme méthodique, froid et organisé.
Ça dit quoi de sa personnalité? Encore une fois, vous l'avez vu dans le cas du procès Mazan et vous ne vous prononcez pas sur ces affaires qui sont en cours. Que c'est un homme de pulsion, mais un homme qui s'organise pour les assouvir, que c'est un homme qui a des procédés qu'il peut répéter. Qu'est-ce que vous en déduisez?
La stéréotypie du mode opératoire caractérise la perversion. Alors, réellement, sous cet angle, il est exemplaire. C'est-à-dire, il est méthodique et il met au point, effectivement, un protocole très strict dont il ne faut pas dévier, parce que c'est un homme qui a un tempérament un peu dominateur, autoritaire, voire autoritariste, et il est très attaché à ce qu'on suive exactement le scénario qu'il a anticipé.
Parce qu'il y prend du plaisir ou parce que ça le rassure? Et là, on parle évidemment du procès de Mazan.
Alors, le besoin de maîtrise était défini par tous les co-accusés. Bon, bien sûr qu'ils se sont défaussés de leur propre responsabilité en disant qu'ils étaient sous l'emprise de Dominique Pénicaud, ce qui est très certainement excessif. Mais en tout cas, c'est un homme qui dirige. J'ai employé dans mon rapport d'expertise l'expression de chef d'orchestre des soirées qu'il pilotait pour ses invités. Avec un déni de la réalité absolument sidérant, puisqu'il est capable de se présenter non seulement comme un homme qui aime son épouse, mais qui la protège. Puisque le sommeil, qui est plus proche du coma quand on a vu les vidéos que du sommeil, le sommeil, dit-il, lui évitait d'avoir à souffrir, de subir les choses qu'elle n'aimait pas dans la vraie vie.
Pardon, Dominique.
Pardon, Philippe. Est-ce que quand vous lui posez des questions, docteur, est-ce que c'est un homme docile qui vous répond? Vous savez, quand les psys, vous le savez mieux que moi, vont rencontrer quelqu'un en prison, ça se passe pas toujours bien. Est-ce qu'il est docile? Est-ce qu'il vous dit ce qui s'est passé? Et si oui, à quel moment il se bloque? Est-ce qu'il y a un moment où il arrête de parler?
Je n'emploierai certainement pas l'expression de docile. Déjà, il y a quelque chose qui frappe. C'est que un homme de 70 ans, qui n'a jamais été incarcéré, jamais été mis en examen pour quoi que ce soit, qui se retrouve quand même dans une affaire avec une honte sociale intense, une médiatisation importante, pourrait, par hypothèse, être diminué ou affaibli. Eh bien non, cet homme qui pourtant a une arthrose de la hanche, qui se rend au parloir avec une canne en claudiquant, garde sa superbe et je dirais presque son arrogance. C'est un homme retors qui laisse percer son impatience quand les questions se font trop précises, qui néanmoins n'écourte pas l'interrogatoire, qui n'a pas de stratagème d'évitement, de réticence, mais qui montre quand même les limites qu'il ne faut pas franchir. Donc, il n'est pas docile, il garde un désir de maîtrise, même dans une situation qui pourrait être infériorisante.
C'est très intéressant parce que, en creux, encore une fois, là, on rebascule dans les affaires qui sont en cours, mais l'autre affaire en cours, c'est celle de Sophie Narm, pour laquelle, là aussi, il a été entendu, où là aussi, alors là, pour le coup, il n'y a pas de preuve de culpabilité comme on l'a dans la première affaire.
Et il n'a rien reconnu.
Il est donc suspect pour le moment. Mais dans cette affaire, là aussi, l'agresseur de Sophie Narm, le meurtrier de Sophie Narm, est quelqu'un de très organisé, qui veut garder le contrôle et qui va tout avoir préparé.
Mais c'est pour ça que la juge turquée regroupe ces deux dossiers. Hein. Elle est partie du fait que Marion avait été... Il y avait eu une tentative de viol. Là, il faut quand même rappeler qu'il a laissé son ADN sur cette tentative de viol. Il y a du sang de Dominique Pellicot. Il va avouer, d'ailleurs, à cause de ça. Il ne va pas avouer directement, évidemment, ce fait. Pour l'autre fait, celui de Sophie Narm, également. Alors, il y a beaucoup effectivement, de choses qui se ressemblent. Hein. Ce sont deux femmes qui sont agentes immobilières. Dans les deux cas, la personne qui a fait la tentative de viol, à savoir Dominique Pellicot, et la personne qui a violé et tué Sophie Narm, a utilisé de l'éther. Là, c'est quelque chose qui est très, très important. Hein. Le fil rouge, c'est aussi l'éther et le produit chimique. Il y a aussi une méthodologie qui est la même, à savoir les coups donnés au visage et au crâne à chaque fois, c'est important aussi. Il y a un détail qui n'a pas du tout échappé à la juge et qui est très très important, c'est que chaque fois il laisse les chaussures des victimes dans un ordre parfait, c'est-à-dire qu'il ne veut pas en gros déranger la victime presque dans son intégrité. Donc il va, pour Sophie Narm, il laisse ses chaussures, ce sont des escarpins bleus, il va les poser avec précaution, on va les retrouver près du corps. Et également pour Marion, c'est la même chose. Il prend les chaussures, il les pose. Il y a une espèce de fétichisme, une espèce d'habitude, etc., que pourrait expliquer Monsieur Bensoussan sûrement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup, beaucoup. Pour autant, il faut le rappeler, il n'est pas aujourd'hui directement impliqué dans le dossier Sophie Narm, même s'il est mis en examen, mais il ne reconnaît pas du tout les faits.
Sur ces aspects de fétichisme que souligne Dominique à l'instant.
Par le...
Jean-Alphonse, pardon.
Pardon ?
Non, j'appelais Jean-Alphonse Dominique.
Oui. On se connaît bien.
Oui. Oui, je sens, encore une fois, sans réagir sur cette affaire, mais dans ce que j'ai pu voir au niveau du procès de Mazan, il y avait de nombreuses déviances. Le terme technique aujourd'hui, qui est moins moralisant, s'appelle paraphilie, c'est-à-dire des attirances en dehors de la norme. Mais parmi ces nombreuses déviances, il y avait le fétichisme. Le fétichisme, si on veut le définir très simplement, c'est de dissocier une partie du tout. Ça peut être une partie du corps, le pied, les seins ou que sais-je. Ça peut être des accessoires. La lingerie, par exemple, dans le procès de Mazan, tenait un rôle très important puisqu'il affublait sa femme... une fois endormie, et même sa fille, malheureusement, d'une lingerie qu'il considérait, lui, comme érotique ou érogène. Donc, il y a des tendances fétichistes chez cet homme.
La grande question qui se pose, c'est entre Marion, entre Sophie Narm, et ce qu'on a découvert, et ce qu'a enduré Gisèle Pellicot, c'est cette période entre les deux. Pouvez-vous imaginer que dans cette période, il n'ait rien commis ?
Encore une fois, je suis vraiment tenu par le fait que l'instruction est en cours, donc je ne m'exprimerai pas directement, mais en termes, au plan criminologique, c'est assez peu probable. La seule chose qu'on peut vraiment déplorer, et là je peux m'exprimer puisque c'était dans le cadre du procès de Mazan, c'est qu'en 2010, quand il se fait pour la première fois interpellé en filmant sous les jupes des femmes, on a son ADN et on ne fait pas le rapprochement avec l'ADN de 1999 pour cette jeune femme tentative de viol. Donc on peut dire que ce qu'a subi Gisèle Pellicot entre 2010 et 2020 n'aurait certainement pas eu lieu si on avait fait le rapprochement à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près certain et sur quoi je peux me prononcer.
Mazan, une série de viols. Marion, agente immobilière, Jean-Alphonse, vous venez de nous le raconter, violée. Sophie Narm, agente immobilière, violée. Et tué. Pellicot, il n'a pas le profil d'un tueur.
Pellicot, pardon ?
Il n'a pas le profil d'un tueur. C'est un violeur, il n'a pas le profil d'un tueur.
Encore une fois, vraiment, sur cette affaire, j'ai rendu un rapport.
Vous ne pouvez pas nous répondre, mais est-ce que la réponse est dans votre tête, même si vous, pas nous, vous ne pouvez pas nous le dire.
On pourrait dire que j'ai une opinion. J'ai rendu un rapport au magistrat instructeur et par respect pour le magistrat instructeur, je n'en parle pas. Le magistrat instructeur connaît mon opinion à ce sujet.
D'accord.
Jean-Alphonse, comment le pôle des affaires d'analyse travaille sur ces deux affaires, mais aussi sur au moins 5 autres dans lesquelles il pourrait être lié? Et la question, c'est bien cette période. Y a-t-il une période blanche?
On sait que les périodes blanches, les parenthèses blanches, comme on les appelle, ça n'existe pas en matière de crimes sériels. On a cru longtemps que Fourniret n'avait rien fait pendant une dizaine d'années. C'est totalement faux. On sait qu'il était en activité. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est assez fragile. Ensuite, comment on travaille? On travaille évidemment par rapprochement. Alors il y a quelque chose qui revient sans arrêt, c'est l'utilisation de l'éther et puis les petits tics, les manies de la personne qui est à la fois tenté de violer Marion et celle qui a tué Sophie Narme. Donc effectivement, on travaille par rapprochement. C'est pas simple, c'est très long. Vous avez parlé de certains dossiers qui sont en cours, effectivement, dont toujours des agentes immobilières. Il faut bien en rester là-dedans. Il faut rappeler aussi que à l'époque de la mort de Sophie Narme, les policiers de la brigade criminelle qui ont fait un travail formidable à l'époque, parce que les procès-verbaux d'époque de la brigade criminelle sont remarquables et exemplaires. Ils avaient été très choqués par ce crime dans cet appartement vide. Ils le décrivent encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotions. Et bien, ils avaient déjà repéré 8 agentes immobilières qui, dans les mois précédents la mort de Sophie Narme, avait été attaquée. C'est pas rien. Alors effectivement, il n'y a pas toujours utilisation de l'éther, etc. Mais ils avaient fait une liste qui existe encore aujourd'hui avec des victimes. Donc on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Voilà, on en est au stade aujourd'hui des questions. Et la juge Nathalie Turquet et les enquêteurs du pôle font un boulot vraiment formidable qu'il faut encore saluer. Ils travaillent beaucoup là-dessus.
Je ne peux pas m'empêcher de réagir avec ce qui vient d'être dit en pensant à la femme et à la fille de Gisèle Pelicot, bien sûr à ses enfants, mais en particulier à sa fille qui a découvert une photo d'elle endormie, parce qu'elle ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. La seule chose dont elle est certaine, c'est d'avoir été droguée, puisqu'elle n'a pas de souvenir d'avoir revêtu cette lingerie. Mais je pense à l'effroi que doit avoir toute sa famille en apprenant ses instructions en cours. C'est-à-dire que réellement avoir vécu, déjà, tout le monde avait l'impression d'avoir vécu aux côtés d'un homme qu'il ne connaissait pas vraiment. Mais si l'effroi ne faisait que commencer avec Mazan, alors ce serait vraiment des répercussions psychologiques vertigineuses.
Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Jean-Alphonse, vous restez avec nous parce qu'on va parler de Danilo Prince dans un instant et vous l'avez interviewé il y a quelques jours. Merci beaucoup, Paul Bensoussan, d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes, tout de suite, les invités de la semaine. L'histoire va-t-elle basculer 30 ans après? Celui que l'on surnomme le boucher de la Sarthe pourrait-il être innocenté? Il y a quelques jours, la Cour de révision a accepté de reprendre le dossier d'Annie Le Prince. Cet homme de 67 ans, aujourd'hui condamné pour le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de 2 de leurs enfants. Meurtre barbare à la feuille de boucher. Mais Danny Le Prince ne cesse de clamer son innocence. Dans ce dossier, de nouveaux éléments sèment le trouble. Face aux zones d'ombre nombreuses, cette affaire Danny Le Prince va-t-elle bénéficier d'un nouveau procès? Tous les détails dans un instant, mais d'abord, retour en septembre 1994 à Thorigné-sur-Douai, dans la Sarthe, avec Elisa Trad.
Après plus de 17 ans derrière les barreaux, Danny Le Prince n'a qu'une obsession, prouver que la justice a commis une erreur en le condamnant. Celui que la presse a surnommé le boucher de la Sarthe s'appuie sur différents éléments du dossier, dont le témoignage de sa fille, 15 ans à l'époque, qu'il juge incompatible avec la topographie de la scène de crime. Les faits sont survenus entre 2 maisons voisines l'une de l'autre, celle de Danny Le Prince et celle de son frère Christian. Nous sommes à Thorigné-sur-Douai. En septembre 1994, Christian, sa femme et 2 de leurs filles sont retrouvés morts, tous tués à l'arme blanche, probablement avec cette feuille de boucher habituellement rangée dans un tiroir chez Danny et Martine Le Prince. Quelques jours après les crimes, le procureur évoque un différend financier entre les frères.
Des raisons peut-être d'intérêt ou de jalousie, enfin les vieilles motivations qui font malheureusement parfois dans le mauvais sens marcher le monde.
En garde à vue, Danny Le Prince a reconnu avoir tué Christian, mais n'a pas évoqué les 3 autres cadavres. Interrogés de leur côté, Sa femme et sa fille l'ont toutes deux désigné comme le meurtrier. Alors quand il est revenu sur ses aveux, c'était trop tard. La justice l'a condamné, en l'absence de preuves selon son avocat de l'époque.
Aucune trace matérielle, il y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait pas de trace ADN, il n'y avait pas de trace de pas, il n'y avait pas de trace palmaire, il n'y avait rien.
Le rôle ce soir-là de Martine Leprince reste une énigme. Dans une dernière version, elle raconte être allée dans la maison des victimes pour récupérer Solène, 2 ans, seule rescapée de la tuerie. La cour de révision doit aujourd'hui réexaminer le dossier et notamment la crédibilité des différents témoignages.
Que de questions, que de mystères dans cette affaire. Il fallait au moins qu'Alain Bauer nous rejoigne. Bonjour, merci d'être avec nous, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, auteur notamment du dictionnaire amoureux illustré du crime chez Grunt Plomb. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Jean-Alphonse, je le disais, vous avez reçu dans l'heure du crime sur RTL il y a quelques jours Dany Leprince, juste après l'annonce de la cour de révision qui va se repencher dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un nouveau procès.
Non, mais...
D'abord, on se repenche sur le dossier. Il continue à dire « je n'y suis pour rien, tout cela est un complot ».
Oui, il dit effectivement, il est sur sa logique, hein, il n'a pas changé, on l'avait déjà reçu il y a quelques années lors de la sortie de son livre, et il continue à dire effectivement qu'il n'y est pour rien et que ses aveux ont été extorqués lors de la garde à vue avec les gendarmes, garde à vue qui a été très mouvementée, où il revient sur ses propos, etc. Lorsqu'on relit cette garde à vue, elle est très intéressante oui. D'ailleurs, hein, on voit qu'il y a eu une évolution dans son discours. Il va d'ailleurs citer déjà à l'époque, hein, faut pas l'oublier, on a l'impression que c'est récent, on va pas oublier, il cite Martine, hein, oui. Il dit « j'espère que je me trompe ». Martine, elle est peut-être dedans, mais j'espère que je me trompe.
Si je me souviens bien, il avoue, il se passe une heure,
oui,
et finalement
ça.
Il revient et dit non, tout
voilà.
Ça est faux,
et après,
il accuse un peu sa femme.
Et il accuse sa femme, et après, il va dire, au final, il va dire, oui, c'est moi, Martine n'a rien à voir avec tout ça. Donc, effectivement, il dit que cette garde à vue a tout provoqué, a complètement dénaturé tout ce qu'il pouvait penser, il n'a jamais été sur place, il n'a pas tué son frère, il dit, j'aime mon frère, j'aimais cette famille, il le dit, etc. Et puis, il va quand même beaucoup plus loin aujourd'hui. Il dit, quand je lui demande est-ce que Martine est impliquée dans cette affaire, il dit certainement. Il dit certainement. Il dit elle était sans doute dans la maison et il dit elle est certainement impliquée. Donc voilà, il est dans cette logique encore aujourd'hui, d'ailleurs avec beaucoup de ténacité et beaucoup de force.
À l'époque, on se pose quand même la question de savoir ce qu'a fait Martine cette fameuse nuit. Elle est pas loin, elle est là, elle dort, elle peut pas ignorer ce qui s'est passé. Et on pense à l'époque, pour tous les journalistes qui étaient sur place, que au moment où il passe aux aveux, il couvre sa femme, parce que si lui va en prison, plus sa femme, leurs 3 filles vont aller à la DAS. Ça va devenir compliqué.
Alors
on pense tous au début qu'il couvre sa femme. En tout cas, elle sait des choses, c'est sûr, qu'elle n'a pas dites.
Alors c'est une hypothèse hein, de travail. Il couvre sa femme parce que effectivement il pourrait être un complice. On pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui sont rentrées dans cette maison. Il faut tirer les corps. On se souvient, hein, il faut tuer, mais aussi il faut tuer les.
Et le beau-frère est tué à l'extérieur et tiré à l'intérieur de la
voilà.
Maison.
Donc effectivement. Ça peut convenir, voilà. Donc ça peut être une explication, mais là il va quand même aujourd'hui beaucoup plus loin hein, concernant sa femme. Il l'implique totalement. Donc on n'est plus tout à fait dans cette même logique. Mais on sent que dès le soir des crimes, ça va pas dans ce couple. Il va nous raconter, par exemple, quand on l'a interrogé, que quand il arrive dans la maison, il rentre. C'est un dimanche soir, donc il a pas travaillé. Il rentre chez lui. Il va trouver sa femme qui est bien habillée, dit-il, comme si elle allait sortir, un habit de ville, donc elle s'est changée. Il va la retrouver derrière la télé, elle ne va pas le regarder, devant la télé, par contre, elle ne va pas le regarder, la télé est mise, le son est mis à minima, il comprend pas très bien, elle ne va pas lui parler, et lui, il dit, on s'est pas parlé, moi, je suis allé prendre ma douche, et ensuite, j'ai dîné, j'ai un petit peu regardé la télé, je me suis couché, puis je me suis levé très tôt pour aller travailler. Il y a cette scène qui est très étrange, qu'il décrit aujourd'hui. Hein.
Il y a aussi, ça peut sembler un détail, Alain, mais la scène de crime, c'est-à-dire qu'on a des meurtres commis à la feuille de boucher, alors lui travaille dans une usine de steak haché, elle aussi dans cet univers et débite des animaux, et en fait, ça donne quand même un élément de point de départ dans cette affaire.
Alors, je crois que surtout l'élément de point de départ, c'est qu'il n'y en a pas. Ni sang, oui. Ni ADN, aucun élément constitutif de quoi que ce soit sur rien qui appartienne à Dany Leprince, oui. À part ses aveux à géométrie variable, extrêmement complexes. On a oublié de rappeler quand même que sa femme et une de ses filles l'accusent c'est pas dire les gendarmes ne sont pas partis comme ça, et que ça a constitué probablement un fil conducteur pour les gendarmes, les incitant à se focaliser sur lui et pas vraiment sur elle, oui. Plus ce qu'a très bien ajouté Dominique sur peut-être qu'il la couvre, peut-être qu'il la couvre. Enfin, il va lui falloir très longtemps pour admettre qu'elle est peut-être éventuellement plus que une simple complice lointaine ou étant intervenue plus tard. Parce que je rappelle qu'il y a une survivante, qui est la petite fille de 2 ans.
Solène.
Solène, qui, bien plus tard, dira « Moi-même, je ne suis pas très convaincu. »
Alors qu'un pédopsychiatre qui l'avait entendu avait dit « Elle a dit tonton méchant » et ça a aussi accrédité l'hypothèse que ce soit Daniel Prince.
Il y a plein d'événements dans cette affaire qui sont extrêmement perturbants, qui peuvent parfaitement expliquer l'orientation prise par l'enquête, mais l'élément majeur, c'est qu'il n'y a rien. Et le couteau numéro... Le couteau.
Jaune.
Le couteau jaune. Avec marqué le nom, le prince, mais pas le prénom, qui semblerait ne pas appartenir à Dany le prince, mais qui pourrait appartenir à sa femme, après des épisodes de perte de scellés retrouvés, de dossiers perdus dans la pampa. Je veux dire, cette affaire est un exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête. Et qui se traduit malgré tout par une condamnation, des refus de révision, une libération, une réincarcération. Enfin, je veux dire, c'est une histoire sans fin, à rallonge. Jean-Alphonse aurait pu faire une demi-douzaine d'émissions de manière assez régulière fur et à mesure des événements. Et enfin, parce que la Cour de révision dit, bon, il y a des éléments soit nouveaux, soit inconnus. Ce sont les deux seuls éléments qui permettent de rouvrir quelque chose. Parce que pour l'instant, elle a juste transmis à la Cour de révision, la commission a transmis à la Cour, et là on va voir si la Cour décide un supplément d'enquête ou une entrée effectivement dans le processus de révision qui pourrait se traduire soit par un nouveau procès s'il y avait encore suffisamment de personnes. Or, pour l'instant, il y a suffisamment de personnes vivantes pour refaire un procès, soit décider que, tout bien considéré, le moment est venu de reprendre ce dispositif et de prendre une autre décision. Vous voyez, c'est une histoire qui n'est pas finie. Il y a encore de la place pour Jean-Alphonse.
Je voudrais qu'on parle en 2 secondes de Solène. Donc, Christian, sa femme Brigitte, les deux filles sont tuées, et la petite Solène, elle est au bout de la maison, dans sa chambre, elle est propre.
Elle est dans
son lit. Lui a changé sa couche dans la nuit, quelqu'un est venu, a marché dans le sang des 4 victimes, a pris Solène, l'a emmenée, lui a changé sa couche. On la retrouve le matin, elle a 2 ans, derrière la porte. Solène dira, via sa babysitter, un an plus tard, elle a 3 ans, tonton méchant. Donc ça va faire partie aussi des éléments qui vont emmener Dany le Prince en prison. Mais aujourd'hui, Solène a 30 ans, elle veut aussi savoir la vérité sur ce qui s'est passé.
Elle dit, j'ai jamais dit ça.
Elle dit, je n'ai jamais dit ça. Mais alors, ce qui est un peu, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dit, Jean-Alphonse, à l'époque, comment est-ce qu'on peut croire une gamine de 2 ans qui dit tonton méchant? Mais aujourd'hui, on la croit quand elle dit, j'ai jamais dit ça.
Oui,
alors expliquez-moi comment, elle a 2 ans, il faut pas la croire.
Parce que
mais maintenant, elle avait toujours 2 ans à l'époque, il faudrait la croire. Parce c'est que pas un peu bancal, ça?
Ce que dénonce notamment Maître Maurice, qui est l'avocat de Dany le Prince, c'est que ses propos, ils auraient été totalement interprétés.
C'est possible.
Non, mais attends, voilà, moi, c'est le dossier qui dit ça. Ils auraient été interprétés, ils auraient été en quelque sorte fabriqués ou refabriqués. On aurait fait parler une gamine. Elle dit, moi, je ne me souviens absolument de rien.
Normal, elle a 2 ans.
Oui, elle l'a dit par la suite. Elle l'a dit après en grandissant.
On n'aurait pas dû la croire dès le début.
L'adolescence.
On n'aurait pas dû la croire dès le début, mais il ne faut pas la croire maintenant non plus.
Mais elle ne le dit jamais. Hein.
Elle ne le dira jamais.
D'accord. C'est la babysitter qui dit qu'elle l'a dit.
Qui lui fait dire, en tout cas, qui interprète ses propos. Mais pour revenir, effectivement, c'est très intéressant, l'histoire de Solène. Il faut quand même aussi revenir avec cette histoire de Solène autour de Martine. Parce que Martine a fait des allées et venues avec cette histoire dans la maison. Première version, je ne suis pas rentré dans la maison. Deuxième version, je suis rentré, j'ai pris le bébé parce que je voulais l'enlever de ce carnage, etc. Je l'ai pris avec moi, je l'ai changé, je l'ai emmené chez mes beaux-parents, c'est-à-dire les parents de Dany, pour qu'ils la gardent, pour qu'ils la prennent. Les beaux-parents, la belle-mère a dit non, pas question que je prenne cet enfant. Je suis reparti dans la maison. J'ai enjambé les cadavres. J'ai marché donc dans la maison et je suis allé déposer la petite dans le lit. Il faut avouer que c'est quand même assez troublant.
Ça, honnêtement,
Alain Bauer me disait tout à l'heure qu'il y avait des choses extraordinaires dans ce dossier. dossier, et effectivement, le dossier est extraordinaire.
Ça, c'est extraordinaire. Célia, puisque vous l'évoquiez à l'instant, l'autre fille de Daniel Le Prince, dit avoir vu au début, alors qu'après, quand on se rend compte qu'elle est derrière une huette Tuya, et qu'elle ne peut rien voir. Ouais.
Non, mais on sent bien qu'on est parti probablement et d'une dénonciation et d'une intuition, et que ça a fait ce qui arrive malheureusement, ce qui arrivait plus hier qu'aujourd'hui, quoique dans une espèce de ligne de nage où l'intime conviction des enquêteurs a éliminé, ça s'appelle un biais cognitif, ouais. J'enseigne ça à l'école de guerre, donc je vois maintenant à quel point ça peut influer aussi une enquête criminelle, un biais cognitif qui est un biais de persuasion. Tout ce qui va dans mon sens, je le mets dans le dossier. Ouais. Tout ce qui ne va pas dans mon sens, je l'écarte parce que je suis persuadé que, et je vais obtenir, ce qui n'est pas le principe de l'enquête, mais le principe de l'aveu. Il y a 30 ans, le principe de l'aveu était extrêmement prédominant. Aujourd'hui, on arrive peu à peu à une logique d'enquête où à la fin, l'aveu, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais ça n'est pas le gâteau. À l'époque, c'est plutôt l'inverse.
Mais on est dans une affaire où tout le monde se court.
Tout le monde ment.
On a l'impression de penser à l'affaire Grégory.
Tout le monde change d'avis. Tout le monde change d'explication.
C'est une affaire familiale.
C'est une affaire familiale.
Exactement. C'est attention.
Parce que ce meurtre, à vous le criminologue, il peut être commis par une seule personne.
Le meurtre, oui. Le mouvement des cadavres, non. Ah oui, 4 meurtres, même 8. Ouais. Ils auraient même pu.
Mais le mouvement des cadavres, non.
Non, les meurtres familiaux, on a en général un seul auteur. Par contre, la mise en scène de l'après nécessite quelques modifications et donc d'être plutôt 2 dans cette affaire. On le voit d'ailleurs dans plein d'affaires qui ressemblent à celle-là, eu égard notamment à le faible laps de temps entre le moment de la découverte. C'est pas 8 jours plus tard caché sous la maison avec de la chaux.
Faut aller vite.
On a une autre histoire. Mais là, on est là-dedans. Mais ce qui est invraisemblable depuis le début, c'est les changements de version de tous les protagonistes. Bien sûr. Tous.
Le seul corps qui est déplacé, c'est celui de Christian Le Prince. Qui est tué près de la boîte aux lettres, à l'extérieur,
et ramené
qui
à la
est
traîné.
Devant la
maison.
On sait exactement comment il a été traîné. On l'a pris sous les bras, on l'a traîné. Et son pantalon, sa ceinture a heurté une petite bordure. Ça lui a baissé son pantalon. On l'a déposé dans la maison. Il suffit de demander à Martine si elle est capable aujourd'hui. Elle est témoin assistée dans ce dossier. Peut-être la mettre en exemple. Il demande si elle est capable, en faisant une reconstitution, de traîner le corps. Un corps qui pesait le poids de son beau-frère, ou si il faut être plusieurs, ou si Dany Le Prince peut le faire. Enfin, ça fait aussi partie des choses qu'on aurait dû leur demander, non?
Et qui seront peut-être demandées, parce que vous le dites, si Martine est mise en examen, je suppose qu'il y aura à nouveau des vérifications qui iront dans ce sens-là.
En tout cas, c'est des choses qu'elle ne dit pas.
Réponse en 2 mots, combien de temps pour qu'on ait une idée de ce que décide la Cour de révision?
Si elle demande un supplément d'instruction, le temps de faire un supplément. Je ne sais pas, disons, 12 à 18 mois.
12 à 18 mois.
Si ça va vite.
Merci beaucoup à vous deux de sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Dominique pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.
Affaires Suivantes sur BFM Radio.